Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois Pascal Rabaté. Bonjour.
Bonjour.
La déconfiture, première partie. Ça vient de sortir chez Futuropolis. Et ça renvoie à cette période de la France en 1940. Pourquoi avoir choisi cette période trouble de l'histoire de France, où des milliers de personnes sont sur les routes, fuyant les bombardements avec leurs bagages?
Oh, c'est que cette période un peu douloureuse et un peu étrange où tous les gens ont été un peu abandonnés, que ce soit les civils comme les militaires, me résonnait un petit peu de façon étrange avec l'époque actuelle où j'ai l'impression que tout partait un peu... On ne savait pas où allait la société. Du coup, je suis un peu parti de ce postulat en me disant que j'allais peut-être mettre un peu... J'allais essayer de mettre en scène mes interrogations, mais... En prenant une période historique française qui a été traitée, certes, mais sur lequel j'avais envie de travailler.
Mais c'est fort ce que vous dites, Pascal Rabaté, c'est même un peu exagéré. On peut comparer la période actuelle avec la débâcle de l'armée française en 1940 ?
Non, on peut la débâcle de la pensée, oui, on peut la comparer à la débâcle physique de l'armée française en 40. C'est une fable malgré tout, hein, mais c'est vrai que c'est des interrogations. Je me suis posé en effet des questions, moi, sur... Ce que la société allait devenir après les élections de 2017, de voir un peu comment les esprits s'échauffent très vite, retombent aussi vite. Toute la population était derrière les CRS avant les nuits debout. Après les manifestations, et les choses avaient encore bougé. Enfin, les frontières sont très très mouvantes. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... du terrain glissant et du terrain boueux en ce moment. Ça change, ça meut, ça... Enfin, moi, je m'y retrouve assez peu.
En juin 1940, en France, c'est pas seulement la débâcle, c'est aussi le début de la guerre, la fin d'un monde. Et pourtant, c'est pas ce que vous représentez dans cette histoire, Pascal Rabaté. C'est pas la guerre. C'est beaucoup plus un abandon généralisé.
Ben c'était un peu ça. Enfin, d'après les souvenirs de familiaux, on me racontait un peu ça justement. Mon père me parlait un peu de la route. Ils en ont fait un petit peu parce qu'ils étaient en Touraine, mais ils disaient en effet qu'il y avait une population qui était complètement lâchée et les gens perdaient à la fois leurs repères, perdaient même l'intérêt aux choses en confondant tout. Sur les témoignages que j'ai lus, il y a des gens qui partaient sur les routes avec des charrettes remplies de chaises et on se dit mais quel intérêt d'embarquer ces chaises, quoi. Quel intérêt d'embarquer un fauteuil, quel intérêt de... Et c'est un peu cette confusion, enfin ce rapport, je dirais, non pas surréaliste, mais décalé, où tout d'un coup tous les gens ont perdu un peu pied et on s'accroche à un objet, on sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi on va l'embarquer, pourquoi fuir sur les routes alors que c'est il aurait mieux valu fuir pratiquement sur par les champs, enfin avoir une en fait l'organisation elle était plus sur la débâcle que sur la prévention d'après les lectures, d'après les textes que j'ai lus, de que ça soit de Calais, de Augier, de d'Amourou, il y a quelque chose, ça a été une période terrible, c'est-à-dire que je pense que les Français, le gouvernement d'abord, et la population française ne s'est pas encore remise en fait de cet échec. Même actuellement, on porte un peu ce truc comme une honte, où la France avait pas perdu comme ça aussi vite et de façon aussi traumatisante. Les soldats ont suivi, enfin, à la suite de cette histoire, les soldats étaient tellement déboussolés qu'ils ont, il y avait un soldat allemand pour garder 30 ou 40, voire même 100 soldats français. Et en fait, tous ces gens-là, avec leurs pères partis ou noyés, ont tous filé en Allemagne Il y a quelques éléments qui se sont rebellés, qui sont partis à travers les champs, mais il y avait une peur de cet inconnu. Malaquais raconte que sur les bords des routes, quand il était prisonnier, il y avait, ils ont croisé des groupes de femmes qui s'abandonnaient aux prisonniers parce que c'était la fin du monde, c'était la fin de quelque chose et réagissaient un petit peu comme on fantasme les dernières 24 heures du monde. On l'a vu au cinéma sur des gens qui font tout et n'importe quoi. Et lui le signalait dans ses carnets de guerre où il disait mais population complètement désorientée qui a perdu tout et qui c'était tellement peu où ça va aller que ben on lâche tout quoi.
Vous avez lu donc des témoignages de l'époque, vous avez questionné aussi votre famille, vous venez de nous le dire, Pascal Rabaté, mais comment vous avez fait pour créer le personnage central de la déconfiture, c'est-à-dire Vidgrain, ce soldat qui était enseignant dans le civil et qui est en panne, hein, c'est le héros à moto, mais un héros en panne qui va être bloqué et qui va être le témoin. Et pour vous, une manière aussi de nous présenter tous les autres personnages de ce drôle d'été français.
Je suis parti au début, quand j'ai commencé à m'interroger sur l'époque, j'ai commencé à fouiller un peu et à voir un peu en littérature ou même en témoignage ce qui avait été fait. Donc je suis tombé sur les carnets de guerre de Malaquais, mais je suis tombé le premier bouquin que j'ai lu vraiment sur la période, c'était le bouquin de Gibault, Guerre, la guerre c'est la guerre, je crois.
Et Gibault
de Yves Gibault.
Oui, Allons enfants ou tout ça.
Qui avait écrit Allons enfants, mais il a écrit un roman en 60 qui a été d'ailleurs un four au niveau de la critique comme du public parce que il présentait son héros, si on peut dire, enfin son personnage principal c'était le portrait de quelqu'un qui était contre l'autorité, qui attendait la guerre, parce que, comme dit la fameuse phrase. Je sais plus qui l'a dit. J'ai cru lire que c'était Céline qui disait que la guerre, ça avait été 6 mois de belote et 15 jours de course à pied. Quoi. On l'appelait ça l'armée la Doumer, qui était un champion de course. Et lui a fait le portrait d'un personnage qui attend la guerre et qui attend la guerre en casernement, qui ne s'entend pas du tout avec les soldats et encore moins avec l'autorité. Et au moment où la guerre éclate, il est mis en faction devant un trou, comme mon personnage, pour le garder. Et il décide que cette guerre n'est pas la sienne et il déserte. Donc le livre m'avait assez marqué pour me dire que j'avais envie d'en faire une fausse suite puisque moi mon personnage se pose à trop de problèmes moraux pour déserter mais de partir de ce postulat d'abord de pas prendre le soldat avec ses bandes moltières et autres, de partir sur quelqu'un qui est motorisé, c'est le petit à côté en fait du personnage et de voir justement quelqu'un qui part après qui se balade entre guillemets sur les restes de la guerre où symboliquement je l'ai mis un peu avec les morts qui croisent le long de la route où au tout début du récit les premiers morts sont emmenés dans les cimetières, la deuxième fois ils sont enterrés sur place et la troisième fois ils sont laissés à l'abandon, même mangés par les cochons quoi. Donc il y a un peu cette chose où lui se retrouve faute d'être acteur parce que il arrive en retard à l'école si on peut dire, il se retrouve témoin et il court après cette chose, ce conflit auquel il a jamais demandé à participer, mais auquel il faut qu'il participe parce que il peut pas être non plus, je dirais, complice de l'arrivée des nazis en France.
La débâcle est là, la mort rôde, elle est représentée dans la déconfiture Pascal Rabaté, et pourtant, les scènes les plus longues, ce sont des scènes de vie où l'on mange, où l'on s'amuse, où on est étonné d'être toujours en vie et on est d'ailleurs souvent très proche de la nature. On est même souvent à poil dans votre histoire, Pascal Rabaté. Pourquoi ?
Parce que la vie continue malgré la mort et qu'en effet tous ces petits épisodes, enfin le personnage avance, donc il peut pas rester près des morts non plus. Donc cette avancée fait qu'il est il côtoie plus la nature que les morts et il cherche peut-être aussi plus la nature que les morts. Donc c'est un paysage, pour moi la nature dans ce livre-là est un personnage à part entière et je voulais lui faire une sorte de part belle. Donc C'est pour ça qu'il y a tout au début, il y a ces rangées de boulot, mais moi qui me renvoie plus à mon enfance qu'à la guerre elle-même, c'est-à-dire que c'était le souvenir des vacances. Moi, quand je partais, mes parents prenaient la route, il y avait encore toutes les rangées de... C'était pas des boulots, d'ailleurs, c'était des platanes. Et il y avait ces rangées de platanes où on part vers un ailleurs, vers les vacances. Mais du coup, j'ai voulu un peu détourner la chose et en me disant que il y a d'abord les platanes et après, c'est un peu les arbres, un peu... qui poussent un peu pareil, un peu au hasard des routes et un peu au hasard des champs, pour à la fois me servir du paysage comme chose existante, mais aussi comme le reflet un peu du paysage intérieur du personnage.
Et vous avez utilisé le noir et blanc, Pascal Rabaté, pour raconter cette histoire. Pourquoi ?
Alors, je pense que c'était pour essayer de mettre une distance pour que le lecteur, en voyant les planches en noir et blanc, se pense tout de suite à une autre époque, en fait. C'était un peu le but du jeu. Après, je suis quelqu'un qui vient beaucoup du noir et blanc. J'ai fait quand même pas mal d'albums, qu'ils soient au lavis ou au trait, en noir et blanc. C'est quelque chose qui me correspond un peu mieux, je crois. Je suis pas le meilleur des coloristes, je pense.
Même s'il faut représenter la nature, parce que c'est la campagne, il y a des arbres, il y a des animaux, tout cela est très bien rendu par votre trait très précis de ces campagnes-là, de cette période-là. Mais c'est aussi un défi. Je pense que paradoxalement, j'ai l'impression que c'est plus dur de représenter cet univers en noir et blanc qu'en passant par la couleur.
Je sais pas, parce qu'on est obligé de remplacer à la fois les couleurs par des lumières et puis par de la matière. La matière des arbres, la matière, le fil du bois notamment. Mmh. C'est la première fois que je me renseigne sur chaque arbre que je vais dessiner. En fait, je partais généralement dans les boulots d'avant sur une symbolique de l'arbre avec son truc un peu touffu, un tronc plus ou moins droit. Et quand j'ai démarré ce projet, j'ai voulu inscrit dans une certaine réalité ou dans une certaine justesse. Donc ça s'est passé à la fois par les poses des personnages, où je faisais mon découpage et après je confirmais un peu les poses par un modèle vivant qui posait, et je vérifiais un peu si les choses marchaient, parce que j'avais envie de cette...
C'est des modèles vivants, c'est pas des photographies, hein?
Non, très peu, très très peu. Il y a eu des choses, en effet, où je bloque, mais de toute manière, j'avais peu de soldats de la guerre 40 sous la main, donc j'ai obligé de faire avec ma compagne qui posait sur une posture, sur quelque chose que je sentais pas juste, sur un roulement de muscles ou même de position. On fonctionne tous à un moment par travailler par une banque de données où on a une position en tête et ça vrille avec le temps. Si on la retravaille pas, on s'aperçoit que ça tient plus ou moins, quoi. Donc j'avais envie d'être beaucoup plus juste anatomiquement, mais aussi beaucoup plus juste avec toutes les représentations, qu'elles soient animales ou qu'elles soient que ça soit les arbres, beaucoup les arbres, parce que c'est vrai que j'ai regardé sur internet justement la différence entre le platane, enfin le platane et le chêne, c'est simple, mais entre le platane, le bouleau et le chêne, et c'est pareil, ça ponctue aussi le récit, ça participe au voyage, quoi. Je démarre avec les platanes et je finis avec les bouleaux et les forêts d'arbres sauvages, quoi.
Et puis tout dire, essayer de transmettre le maximum d'informations et surtout de sentiments, de sensations, sans passer par les mots. Pourquoi vous avez été, une fois de plus, Pascal Rabaté, assez économe en ce qui concerne les dialogues?
D'abord, il faut quelqu'un pour discuter. Moi, j'aime assez peu les personnes, les personnages en bande dessinée qui parlent tout seuls. Au cinéma, c'est encore pire, qui s'interrogent à voix haute. Et donc, mon personnage, c'est un taiseux, comme aurait dit mon père. C'est quelqu'un qui a beau être instituteur, qui parle pas pour ne rien dire. Donc, il y a des échanges quand il est avec quelqu'un. On échange des idées, mais en même temps, pourquoi parler avec quelqu'un? Pourquoi sympathiser trop? Parce que je pense que ça correspond aussi à l'état à la situation que vivait le personnage. Pourquoi sympathiser avec un personnage qui va peut-être mourir ou qui simplement va partir, va sortir de mon champ de vie dès qu'on a retrouvé nos régiments? Donc ça vient plus du personnage, c'est-à-dire que j'ai essayé de travailler la couleur des dialogues.
C'est-à-dire quoi, la couleur des dialogues?
C'était travailler un peu avec les expressions d'époque, imager beaucoup, parce que je pense que dans les années 30, il y avait déjà pas mal de langages de métiers. Il y avait le louchébem sur les gens qui travaillaient aux abattoirs. Il y avait cet argot qui est assez riche, cette langue verte qui était très très travaillée.
Et vous avez retrouvé ça où? Dans des films, dans des livres, ou en allant questionner quelques personnes encore en vie qui ont traversé cette époque?
Il s'avère que dans ma famille, on parlait énormément par image. Enfin, mon père parlait peu, mais dès que c'était toujours en comparaison. C'était le milieu d'où il venait, où on imageait beaucoup. Et donc c'est vrai que j'ai un carnet complet de pas d'anecdotes, mais de petites phrases, d'images comme ça. Donc c'est des gens qui ont vécu cette époque. Et puis après, j'ai lu pas mal de bouquins d'époque, que ça soit Dabi, que ça soit Calais. C'est des langues quand même très riches en périphrases, en images, en métaphores. Donc j'ai essayé de retrouver un peu ça. Après, je l'ai dans la lecture. En effet, il y a pas mal de bouquins les trucs de Dabi sont quand même écrits. C'était un écrivain populiste, mais le terme populiste, c'était comme il était employé dans les années 30, donc c'était populaire. Il y avait quelque chose d'assez...
authentique ?
Je sais pas si c'était authentique, mais assez agréable à l'oreille dans les films, comme agréable à la lecture dans les bouquins.
Alors, en début d'entretien, vous nous disiez, Pascal Rabaté, que c'était beaucoup plus la confusion des temps d'aujourd'hui, de notre époque, qui vous a donné envie de vous pencher sur cette autre période de troubles de la France, la débâcle en 1940. Mais une fois que vous êtes lancé dans cette histoire, est-ce que le présent vous hantait au fur et à mesure que vous étiez déjà dans l'époque que vous décrivez, c'est-à-dire les années 40, la débâcle, cet été-là?
Non, je crois que je me suis fait embarquer par mon sujet, par mon personnage, en l'occurrence, je savais à peu près où j'allais. J'avais découpé pas mal de choses et en même temps je nourrissais le récit au fur et à mesure de l'avancée, quoi. Et donc non, je me suis complètement fait embarquer par le sujet, quoi. Donc c'est mon personnage et sa rencontre avec ce petit agriculteur qui a fait que après je n'ai pas oublié l'époque, parce qu'elle se rappelle quand même assez souvent à nous, mais j'ai pensé plus qu'à mon sujet, quoi.
Et votre sujet, cette époque-là de la France, est-ce qu'elle a été incarnée par une chanson, par exemple, ou des musiques qui vous ont accompagné, Pascal Rabaté?
Oui, parce qu'il y a un type que j'ai écouté en boucle pendant des années et des années, c'était Charles Trenet. J'avais à peu près toute la... J'ai à la fois tout en vinyle et tout en CD. Donc, il y a en effet le Douce France, mais avec la petite note un peu ironique qui revenait derrière. Mais c'était quand même le premier chanteur qui amenait le jazz en France. Et du coup, il y a un peu ça, il y a un peu cette ironie de traîner. Je déteste Chevalier, mais traîner, pour moi, ça reste quelque chose qui m'embarque à chaque fois. On a peut-être des terrains communs, d'ailleurs, où lui parlait de choses assez sombres, mais toujours sur le côté de la farce. La chanson où il dit qu'il s'est pendu, je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. C'est quelqu'un qui parlait de la mort avec un certain détachement. Enfin, lui a pu m'accompagner en fait en arrière-fond.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis
Charles Trenet. Toutes les occasions sont bonnes pour écouter Charles Trenet à la radio. Merci de nous avoir donné cette occasion, entre autres, Pascal Rabaté. C'est la première partie, la déconfiture. C'est un récit en deux parties, ou peut-être plus?
Oui, oui. J'espère deux. Après, m'étonnerait que je déborde sur... Enfin, peut-être vais-je déborder sur trois. Non, je pense qu'on aura que deux.
Et c'est édité par Futuropolis. Merci d'être passé ce matin. Et merci pour le dessin que vous nous laissez pour le site de l'émission.
Merci à vous.
Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je je voudrais manger, je suis tout léger, léger.